BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Je reçois quelqu'un qui dirige un groupe dont vous connaissez évidemment les produits. Il est la quatrième génération parce que ça a été créé par son arrière-arrière-grand-père, Luigi Lavazza, en 1895. Giuseppe Lavazza, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, de parler français.
Merci.
Vous pouvez peut-être parler italien ou anglais de temps en temps si vous avez un doute.
Merci.
On va quand même rappeler évidemment Lavazza, ses cartes noires, ses Maxi Coffee maintenant, c'est évidemment les cafés Lavazza. Voilà, France est, je crois, votre deuxième plus important marché et vous avez envie de faire de nouvelles acquisitions. Vous nous direz peut-être lesquelles. On parlera aussi peut-être d'une taxe sur les grands industriels qui ne veulent pas renégocier parce que vous en faites partie et vous m'avez dit juste avant, je ne veux pas renégocier. Vous nous direz comment vous allez faire. Mais on va commencer peut-être ce qui cause votre venue ici en France, vous êtes partenaire de Roland-Garros depuis très longtemps et ce encore jusqu'en 2025. Qu'est-ce que vous apporte un partenariat avec Roland-Garros ?
Mais c'est un partenariat qui dure de longtemps. C'est un partenariat très solide. Nous sommes très heureux d'être ici cette année aussi pour partager toutes les valeurs de ce tournoi magnifique, c'est une vitrine internationale pour nous. La France est devenue le premier marché pour Lavazza.
Devant l'Italie.
Et donc pour nous, Paris, la France et tous les événements importants comme le Roland-Garros sont centrales dans notre stratégie de communication de marque.
D'accord. Communication de marque très importante, évidemment, puisque vous êtes des produits grand public, même si vous vous adressez aussi avec la vente de machines, notamment en grains, parce que je sais que ça explose, on en dira un mot, mais vous êtes surtout vis-à-vis du grand public. Giuseppe Lavazza, juste encore un mot sur ce partenariat avec Roland-Garros. Ça consiste à faire quoi ?
Nous sommes partenaires officiels comme café, donc ouais. Nous avons un dispositif sur place avec beaucoup de bars, de cafétéries. Nous servons beaucoup de café pendant le tournoi. L'année passée, nous avons aussi eu le plaisir d'avoir notre brand, la marque Lavazza, sur le cours central avec une exposition très importante, mais sont surtout les valeurs que nous partageons avec le tournoi et le plaisir de recevoir notre invité.
Et vous êtes partenaire du tournoi de Rome aussi, qui est juste avant, qui est très très important.
Non, nous sommes partenaires de Wimbledon, nous sommes partenaires de l'US Open et nous sommes partenaires aussi de ATP Finals qui se joue à Turin, notre ville.
Ah, tournoi, d'accord. Ouais. Oui, parce que vous êtes grande famille italienne qui est forcément est à Turin. Giuseppe Lavazza, vous avez subi l'envol des prix du café. Les prix ont doublé, je crois, en 2022. Et tous les coûts de production. Parce que je vais quand même rappeler que vous êtes le premier fabricant mondial de machines à expresso et premier fabricant mondial des capsules individuelles. Vous en fabriquez plus de 2 milliards de dosettes. C'est dire si c'est important. Donc là, les prix du café, ils ont doublé. Le plastique, on en dirait un petit mot. Du reste, l'aluminium, tout ça, ça a explosé. Le prix d'une dosette a été multiplié par combien ?
Ah, par beaucoup. Ça dépend. Sur notre marché, il y a beaucoup de différents produits. Il y a les cafés moulus, il y a les grains, il y a les dosettes, il y a des différents canaux de vente. Donc, la gestion du prix a été ciblée en suivant les différents marchés, les différents segments. Mais en effet, c'est vrai, le prix du café a explosé. Dans le 2021, nous avons eu un pic de le café arabica pour une gelée très forte qui a frappé le Brésil, la production brésilienne. Et cette année aussi, nous avons un autre pic dans le café Robusta, qui est l'autre variété de café qui a touché le maximum depuis 15 ans. Donc vraiment une situation compliquée, difficile au niveau d'approvisionnement de la matière première.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en 2023, le pic du prix du café a été atteint et que c'est plutôt en train de redescendre ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Nous avons cette situation du Robusta qui reste très, très,
très élevé,
sérieux,
ouais.
Très élevé, absolument. Et après, il y a aussi la position du dollar. C'est important à considérer pour nous. Nous achetons en dollar, donc à cet moment, le dollar est plus fort et frappe, bien sûr, les coûts du café que nous devons racheter.
Oui. Comment est-ce que vous avez fait pour maintenir... Alors, votre marge, elle a baissé. Alors, vous avez annoncé un peu tout à l'heure, justement, un peu les résultats. Marge opérationnelle est tombée à 13,5%, ça c'était en 2021. Et là, 11,4% en 2022. En 2023, elle sera de combien ?
En 2023, nous pensons que tous les effets de l'inflation et surtout du prix du café vont se décharger sur notre compte d'exploitation.
Ouais.
Donc, 2021-2022, nous avons tenu bien, assez bien les marges, mais surtout les volumes, parce que nous avons pratiqué une politique de prix très prudente et très attentive aux attentes des consommateurs. Mais 2023 sera une année très difficile au point de vue des marges et de la tenue de compte de l'entreprise.
Ouais. Vous faites, enfin, 2022, 2,7 milliards de chiffre d'affaires. Vous avez 8 usines, dont une en France.
Oui. Ouais.
Vous avez combien de collaborateurs ?
Ah, maintenant, avec l'acquisition de Maxi Coffee, nous sommes arrivés à 5 500 collaborateurs, ouais, dans tout le monde.
Ouais. Et la France, donc votre premier marché, on dira un mot aussi de la Chine, parce que je sais que vous revenez de Chine et que vous êtes en train de vous développer aussi beaucoup en Chine. Ça veut dire quoi ? Comment vous faites pour tenir vos prix ?
Avant tout, il faut considérer que nous tentons toujours d'avoir une entreprise très compétitive sur le marché. Donc, il faut gérer très bien les prix pour permettre aux consommateurs de continuer à racheter notre produit. Alors, l'action pour tenter de contraster l'augmentation des prix, des coûts de production, surtout, était faite par une gestion très prudente de la politique de prix, avec une baisse de notre marge et en compenser beaucoup l'action inflative et en gestion très rigoureuse des coûts. Donc, c'est une action complexe jouée sur trois différents secteurs de notre action économique.
Giuseppe Pellavasa, est-ce que pendant la crise qu'on a connue, est-ce que les Français, est-ce que les gens, ils ont consommé plus de café ?
Mais nous devons considérer que ce phénomène inflatif est vraiment quelque chose d'unique parce qu'il a touché tous les secteurs. Donc aussi le pouvoir d'achat des consommateurs commence à être touché. Donc pour cette raison, nous avons tenté de garder les prix et de sacrifier quelque chose au point de vue de notre image. Bien sûr, il y a une élasticité prix-volume importante dans notre marché, et notamment quand les prix commencent à augmenter, il y a une diminution des volumes. Ouais. Cette diminution des volumes commence à se faire sentir aussi dans notre secteur.
Ah, d'accord. Moins combien ?
Mais ça dépend bien sûr du produit. Sur les moulus, par exemple, nous avons déjà enregistré un petit shoot. Il y a par contre une évolution positive du segment du café en grains qui est...
Ah oui, qui a explosé, ça on en dira un mot, ça a explosé.
Et ça a explosé, ouais, exactement, et en tenue du marché de la capsule.
Oui. Je crois que vous avez écouté le journal avec attention, que c'est Pellavasa, parce que selon nos informations de BFM Business, Bercy, le ministère des Finances, Bruno Le Maire, envisagerait de taxer les industriels qui ne veulent pas renégocier. Vous, avec Carte Noire, c'est la marque préférée des Français, mais c'est la marque la plus distribuée dans la grande distribution. Est-ce que vous nous dites ce soir, je suis prêt à renégocier ?
Alors, nous avons l'intention de suivre cette évolution législative qui est très importante, mais il faut faire parler les chiffres, je pense. Alors, dans les 2022, notre chiffre d'affaires en France a augmenté de 6%. Et les volumes en total sont augmentés de 0,1%. Donc, ça signifie que nous avons tenu les volumes et nous avons augmenté les prix en façon vraiment petite par rapport aux 14% qui ont s'annonce comme niveau de l'inflation. Donc, je pense qu'il faut considérer secteur par secteur et cas par cas parce qu'il y a des entreprises comme Lavazza qui a bien géré avec responsabilité l'augmentation des prix.
Donc ce soir, vous dites non à Bruno Le Maire. Vous dites, nous, on ne peut pas renégocier.
Pour nous, c'est impossible parce que...
Impossible.
C'est impossible parce que sinon, nous mettons à risque la tenue financière de l'entreprise. Donc nous sommes vraiment en tension avec les coûts et nous espérons que la situation va améliorer dans les 2024. Mais pour l'instant, nous avons déjà compensé beaucoup avec notre marge et nous sommes en limite qui est impossible de passer.
Ouais. Et qu'est-ce que vous allez faire si jamais il y a cette taxe ?
Il faut considérer, bien sûr, toutes les options. Mais au point de vue de la gestion économique, nous avons bien négocié avec la distribution qui a accepté notre augmentation de prix, notre politique, parce qu'il était très justifié par la situation générale. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que la situation n'est pas changée à tel point pour renégocier les conditions que nous avons établies.
Tiens, on va faire un tout petit détour comme ça par la pub, la publicité, votre pub. Elle est bien, mais la pub de Nespresso, elle est géniale, non? Avec George Clooney, Camille Cotin et Jean Dujardin. Vous n'allez pas faire la même chose chez Lavazza?
Nous avons choisi une façon différente pour faire la pub. Ouais. Nespresso a fait son choix et je la respecte complètement. C'est une grande entreprise. Mais nous aussi, nous avons des très bons marketing makers qui font des communications de haut niveau. C'est une communication pour Carte Noire très française, comme Carte Noire est absolument 100% française. En fait, nous avons ramené en France toute la production de Carte Noire à la Verrune pour avoir la verticalisation
totale. La Verrune, c'est l'usine que vous avez en France, justement.
Oui, ouais. C'est tout à fait dédié seulement à Carte Noire. Ouais. Donc, nous avons le plaisir de dire que Carte Noire reste le café préféré par les Français avec un parc de marché très important. C'est numéro 1 dans les marchés moulus et dans les cafés grains.
Ouais. Vous produisez, au total, vous produisez combien de tonnes de café chez Lavazza? Moi, je comptais en milliards de dosettes, mais vous produisez combien de tonnes de café?
Il faut considérer les numéros des sacs de café. Ça, c'est l'unité de mesure.
Ah oui, c'est le sac de café, c'est vrai.
Le sac
oui.
de café, c'est 100 kilos et nous avons déjà superé 4 millions de sacs de
100 kilos
de café pour un. Donc, c'est vraiment une très bonne quantité.
Alors, la France, juste avant cette taxe envisagée par Bercy, on sent quand même que ça vous a un peu heurté, Giuseppe Lavazza, la France est votre premier marché et vous comptez faire des acquisitions, vous y développez. Vous avez racheté la totalité du capital de Maxi Coffee. Pourquoi est-ce que la France est si importante? J'ai envie de dire l'Italie, c'est Lavazza, c'est le café, c'est l'expresso. Pourquoi la France? Tant mieux pour nous, mais
Oui, mais dans notre stratégie, c'est très important l'internationalisation et pas seulement l'exportation. Donc, il faut créer des pays très forts, des autres jambes pour garantir au groupe un développement durable dans le futur. La France est un pays où nous avons investi beaucoup. Nous sommes présents en France il y a 40 ans. Nous sommes partis zéro. La première filiale de Lavazza a été fondée à Paris en 1982 par mon père et pour mon cousin. Et nous avons fait toujours des investissements en ce pays avec beaucoup de succès. Avec avant tout le rachat à Paris de Café Rillage et Henri Bertrand, la première acquisition faite en 1993 et après beaucoup de petits fonds de commerce. Lavazza aujourd'hui est leader dans les marchés hors domicile et après bien sûr des autres acquisitions dans les marchés retail, Carte Noire, mais maintenant aussi Maxi Coffee. Donc nous avons vraiment investi beaucoup et aujourd'hui le chiffre d'affaires,
oui,
qui nous faisons en France est 600 millions 50.
Oui, donc c'est
beaucoup.
C'est
et l'Italie beaucoup. Est 500 millions 90. Donc la France.
Une autre usine en perspective en France ou pas?
Non, pour le moment, non. Il y a l'usine, bien sûr, de la Verrue, mais aussi Maxi Coffee a une usine. Donc, nous avons déjà deux usines.
Oui. Maxi Coffee, c'est une entreprise française qui existait, que vous avez rachetée, qui vend des machines et du café sur Internet. Donc,
c'est ça.
Ouais. Oui. Là, vous allez compter le développer comment, Maxi Coffee? Maintenant, vous l'avez racheté.
Oui, Maxi Coffee, c'est un modèle de business très intéressant parce qu'elle a cette plateforme e-commerce qui pour nous est très importante. Nous pensons que l'e-commerce aura un futur important sur le marché de café aussi. Donc nous sommes très intéressés à comprendre et à racheter la technologie et bien sûr les savoir-faire.
Vous êtes au total, vous avez 8 usines, c'est ce qu'on disait au total, dont une en France encore une fois. Vous êtes présent dans 140 pays et vous revenez de Chine. La Chine, vous avez signé un partenariat et c'est très important pour vous. Les Chinois, ils prennent des cafés?
Beaucoup. C'est un marché en développement très intéressant. Nous avons trois façons pour soutenir notre développement international. La croissance organique, bien sûr, l'acquisition et l'alliance stratégique. En Chine, nous avons fait une alliance stratégique avec un groupe très important qui s'appelle Yum China, spécialisé dans le retailing. Donc, il était intéressé à développer un marché café avec une marque importante, a choisi Lavazza comme partenaire. Nous avons comme objectif de créer d'ici à 2026 1000 boutiques de café dans le pays.
Des boutiques, là ça serait vraiment des boutiques.
Des coffee shops.
Prendre un café ou alors pour acheter des machines.
Non, pour prendre un café, ce sont des coffee shops, c'est-à-dire ce sont des cafés.
Des coffee shops, c'est ça.
Oui, des cafétéries.
Et bien, j'ai quand même une question. Vous disiez tout à l'heure, enfin, on parlait de l'explosion et du succès du café en grains. C'est la grande tendance, un peu, il y a le retour des vinyles et puis il y a le retour du café en grains. Mais aussi c'est beaucoup plus écolo parce que les dosettes, c'est quand même pas très écologique.
C'est ça, exactement. Il y a un retour envers la naturalité, la simplicité, mais aussi un savoir-faire un peu plus artisanal, si vous voulez.
Oui, il y a l'art du café, il y a l'art du thé, et maintenant, vous voulez développer l'art du café.
C'est ça, exactement. Il y a de belles machines automatiques ou manuelles. Il y a l'intention du consommateur de se mélanger avec la ritualité du café. Et donc, les grains sont parfaits pour compléter cette expérience qui est vraiment pas une nouveauté, mais retrouve une jeunesse aujourd'hui qui est exceptionnelle.
Oui. Plus, j'avais noté le volume, c'est plus 27, presque 28%.
Oui, c'est
Mais ça se poursuit.
Absolument.
C'est les jeunes notamment.
Oui, c'est un phénomène global. C'est pas seulement la France, c'est aussi l'Italie, les Royaumes-Unis, les États-Unis. Mais il y a un public très varié. C'est-à-dire, il y a des personnes plus jeunes, mais surtout, il y a des personnes qui sont des connaisseurs, qui sont des personnes qui aiment beaucoup la cuisine, la nourriture. Donc, on recherche quelque chose de spécial. Ils vont préparer eux-mêmes le café.
Les cafés en grains, lui, il a augmenté de combien? Je reviens dans les grandes surfaces en France. Le paquet de café en grains, il a augmenté de combien?
Ça dépend.
Non, mais carte noire, par exemple. On reste sur la carte noire, puisque c'est la marque la plus distribuée.
Entre 8 et 10 %.
Pardon?
Entre 8 et 10 %.
Oui. 8 et 10 %, c'est quand même beaucoup. C'est plus que l'inflation.
Non, l'inflation était à 14 %.
Oui, donc 14% sur alimentaire, vous avez raison. Vous
donc
avez...
c'est moins.
Oui. Et là-dessus, vous allez compter. Est-ce que le prix du paquet de café, il va redescendre à un moment?
Alors, bien sûr. Dans l'époque, dans l'histoire du café, nous avons vu beaucoup de fluctuations, c'est-à-dire le café est un commodity avec beaucoup de volatilité. Il y a des saisons, les prix sont très élevés, des autres qui tombent. Et bien sûr, il y a beaucoup de compensations, surtout au niveau des promotions, d'activités promotionnelles. Donc, quand le café commence à baisser, car le marché est très compétitif, il y a beaucoup de compétition, on commence à avoir une bagarre et les prix commencent aussi à baisser.
Et ça, c'est pour quand vous pouvez dire aux Français qui vous écoutent, consommateurs de café, les prix du paquet de cartes noires, il va baisser quand?
Ah, pour l'instant, il ne va pas baisser, malheureusement, parce que la situation est encore sous tension. Dans le 2024, nous espérons qu'en général, les prix du café vont baisser et il y aura la possibilité pour donner de l'espace.
Est-ce que vous subissez des marques distributeurs dans le café, c'est-à-dire des marques...
Non.
Non. C'est forcément des... Donc, vous êtes quasiment en monopole, Giuseppe Lavazza. Donc, vous profitez de la situation.
Non, ça, c'est impossible parce que le marché est très complexe. En France, il y a...
Il y a l'or du café, une
bien
autre
sûr,
grande famille.
Bien sûr, il y a des marques très importantes. Non, il y a des concurrents très forts. Il y a Nestlé, il y a l'or... dans les marchés retail, dans les marchés horeca, il y a beaucoup de torréfacteurs locaux qui sont absolument puissants. Donc, le marché est toujours en grande compétition.
Donc, encore une fois, vous nous dites, je ne baisserai pas mes prix.
Pour l'instant, c'est impossible.
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 Allez, j'attends de voir la discussion avec Bruno Le Maire, hein, quand vous allez le rencontrer. Vous êtes prêt?
Avec plaisir.
Oui, avec plaisir, vous l'attendez aussi. Quel regard vous jetez sur la France lorsque vous voyez les manifestations sur la réforme des retraites, le débat à l'Assemblée nationale? Vous vous dites, tiens, ça me rappelle un peu mon pays, l'Italie.
L'Italie est plus calme. Nous avons
c'est
aussi...
plus calme maintenant, c'est un peu la version.
Oui, c'est beaucoup plus calme. Nous avons bien sûr des discussions sur les retraites en général, parce que c'est un problème global, le vieillissement de la population.
Elle est à combien en Italie, la retraite?
Ça dépend, il y a beaucoup de systèmes. Nous avons un système très compliqué, il y a de la flexibilité, il y a des méthodologies pour compter les années de travail et des contributions. En général, c'est 65 ans, mais il y a beaucoup de différences. Ouais. Donc, comme toutes les choses en Italie, sont très compliquées. Mais il y a beaucoup de discussions parce que la situation de la dette publique est fragile et donc aussi la tenue du système de retraite doit être bien considérée.
Quand On dirige une entreprise comme Lavazza, la transition écologique, comment vous, vous le répercutez sur votre activité? Je ne sais pas si vous avez vu le rapport Pisani-Ferry en France, Mafouz, qui dit il faudrait une des hypothèses pour financer tout ça, ça coûte très cher, ça serait de taxer les super profits, les super riches et les entreprises. Comment est-ce que vous réagissez, vous?
Nous sommes sur ce sujet depuis 2004 avec la création de notre fondation qui était le point de départ d'une action durable, long terme, que l'entreprise poursuive depuis des années. Nous sommes très engagés dans beaucoup de projets. Par exemple, avec la fondation, nous financions 33 projets de coopération internationale avec les producteurs de café en 21 pays, 3 continents, impliquant environ 180 000 producteurs. Ça, c'est un aspect. Et après, il y a tous les processus pour réduire, par exemple, les impacts de la CO2, mais aussi toutes les actions.
Qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, dans vos usines?
Par exemple, le 98% du café produit dans notre usine utilise une énergie renouvelable.
Renouvelable, d'accord.
Exactement, ça c'est un exemple. Le 76% de notre packaging est déjà complètement recyclable, compostable, réutilisable. Ouais. Sera le 100% d'ici 2025. Le 97% de notre déchet végétal qui dérive du café se sont déjà transformés en engrais. Donc, il y a tout un programme sur l'énergie, par exemple, mais aussi sur les packaging pour réduire l'impact et arriver 2030 avec une entreprise à impact zéro.
Et sur le recyclage des dosettes?
C'est la même chose. Il y a beaucoup, bien sûr, d'études. L'aluminium est un matériel recyclable, donc il y a déjà des solutions un peu compliquées, mais il est déjà possible. Il y a beaucoup d'études pour arriver à utiliser du papier ou des autres formules pour garantir la qualité, mais en même temps augmenter la durabilité du produit.
Oui. Est-ce qu'on aura encore quelques années, mais peut-être qu'encore quelques mois, il y aura toujours des dosettes où petit à petit, les gens vont s'en détourner?
Les dosettes sont un produit que les gens aiment beaucoup
parce qu'il y a beaucoup de conveniences
pratiques. Oui. Et bien sûr, c'est un produit qui aura des évolutions importantes pour tenir compte de toute cette attente au niveau durable qui sont absolument fondamentales.
Merci beaucoup. On voit qu'il y a un sacré programme. Et puis en même temps, on voit aussi que pour vous, la compétition est rude et qu'il n'est pas question de baisser les prix, qu'il n'y a pas forcément de marge de manœuvre. Il n'y a pas impossible, impossibilé, comme vous dites. Merci à Giuseppe Lavazza d'avoir été avec nous. Donc, vous avez compris, le président du groupe Lavazza. Tout de suite, c'est Tech & Co, bien sûr, François Sorel. Pour ceux qui veulent réécouter cette interview, vous pouvez regarder, flasher votre QR code qui s'affiche pour ceux qui n'ont regardent la télévision. Et sinon, sur le site de BFM Business en replay. Bonne soirée, à demain.